Bonjour à tous, c'est Seb pour votre émission Ça roule, l'émission de l'automobile, mais pas que. Cette semaine, au sommaire de Ça roule, histoire des voitures françaises d'hier et d'aujourd'hui avec l'Alpine A610. Si nous avons fêté cette année les 70 ans de la marque Alpine, 30 ans plus tôt, la dernière Alpine Renault du XXe siècle disparaissait en même temps que la marque Diepoise. Mais pour mieux revenir 22 ans plus tard avec le succès qu'on lui connaît avec une certaine Alpine A110. Ça roule va donc revenir sur l'histoire de cette GT française qui était la dernière Alpine du XXe siècle. Depuis le lancement de l'Alpine A310 en 1971, Alpine n'a cessé de tenter de rivaliser avec Porsche en montant en gamme, modèle après modèle. Loin du modèle initial, concrétisé magistralement par une certaine A110, les sportifs de Dieppe chassaient l'allemande sans jamais en avoir les moyens ni les performances. Pourtant, avec l'A610, la firme pensait avoir enfin rattrapé son retard, espérant démontrer, enfin, le bien fondé de sa politique. Hélas, la nouvelle sportive française ne sut jamais trouver sa clientèle, malgré des qualités évidentes et dures, de se contenter de faire de la figuration sur le marché avec une diffusion quasiment confidentielle, tournant à l'accident industriel, il faut le dire. L'échec de l'Alpine A610 précipita la fin d'Alpine, confortant Renault dans l'idée qu'il était désormais impossible de faire vivre une marque sportive en France à l'époque. Mais ça, c'était avant. Quand l'Alpine A610 est née, elle devait regrouper le meilleur du savoir-faire de la marque diepoise. L'aboutissement d'une lente montée en gamme et en performance pour passer d'une sportive agile mais spartiate, l'A110, à une GT confortable et puissante. Actionnaire d'Alpine depuis 1965 et majoritaire depuis 1973, Renault, avant la régie Renault, n'a pas été l'investigateur de cette politique voulue par Jean Rédélé avec l'A310 qui avait été lancée en 1971. Mais l'a validée puis perpétuée jusqu'à lui greffer un V6 PRV en 1976 et lui assurer une descendance du même acabit en 1984 avec la V6 GT puis Turbo. D'une certaine manière, cette stratégie, facile à critiquer, a posteriori s'avérera intéressante puisque les ventes suivent, permettant à Alpine de passer du statut de constructeur artisanal à celui d'industriel, en développant ou en produisant par ailleurs des produits sportifs pour le losange, la Renault 5 Alpine par exemple, ou encore bien sûr la Renault 5 Turbo, puis la Super 5 GT Turbo. La marque de Dieppe assurait un volume de production intéressant sur des marchés de niche. Elle savait même dépanner quand le besoin s'en faisait sentir, en produisant le Renault Espace première génération en complément de Matra entre 1988 et 1990. Depuis 1984, c'est l'Alpine V6 GT et Turbo qui assurait la présence d'Alpine sur le marché des sportifs françaises. Malgré un volume de vente encore conséquent, elle annonçait déjà les difficultés à venir, amorçant un léger déclin par rapport à l'A310, détentrice du record de production devant l'A110. La V6 GT pêchait par sa puissance et le manque de modernité de son moteur resté au carburateur, avec un simple corps et un double corps. La turbo, quant à elle, rectifiait le tir. Manneton décalé, injection, pour l'époque, ça montait en gamme. Mais sans arriver à proposer plus de 200 chevaux, voire même 180 chevaux, en passant par le catalyseur. Le design élégant, signé Gérard Godefroy, n'était sans doute pas assez exclusif, tandis que l'intérieur poussait un peu trop le curseur vers le futur, en oubliant la qualité d'assemblage et la finition requise à ce niveau de prix. L'Alpine A610 se devait donc de corriger ses défauts et d'assurer enfin la réputation de la marque en proposant enfin des performances dignes du blason diepois ainsi qu'un sérieux de fabrication jusqu'alors jamais atteint. Comme dirait l'autre, avoir des ambitions est une chose, en avoir les moyens en est une autre. Chez Renault et par extension Alpine, le couperet n'est pas passé loin d'ailleurs en 1987. Au bord de la faillite, La marque aux losanges a dû se débarrasser à vil prix, il faut le dire, de sa filiale américaine AMC Jeep, réduisant à néant donc les espoirs d'une carrière américaine pour son Alpine GTA. Or, depuis 1986, la marque de Dieppe travaillait sur une version US de son coupé, dépensant 180 millions de francs tout de même sur le projet à l'époque. De l'argent manquant cruellement à l'heure de développer le projet D503. Pour rentabiliser l'investissement, donc, cette dernière reprendra beaucoup des travaux réalisés à ce moment-là, utilisant même certains des 21 prototypes produits comme mulet. De fait, avec un budget ridiculement bas, la 610 devra se contenter d'être une grosse évolution de la GTA plutôt qu'une vraie nouveauté et en paiera le prix fort par la suite. La nouvelle Alpine conservera donc dans les grandes lignes le style et la technique de sa devancière. Châssis poutre, V6 PRV en porte-à-faux arrière, profil quasiment identique au néophyte. Visuellement, seuls les phares escabotables distinguent l'Alpine A610 de la GTA. Au premier coup d'œil, elle en récupère en effet la cellule centrale et la partie arrière. Elle est pourtant plus longue, 4,41 m pour la 610 contre 4,33 m pour la GTA. Et les détails de sa carrosserie offrent un dessin plus abouti et plus moderne. Malgré cela, le résultat est sans appel. Elle ressemble plus à un restylage qu'à une nouveauté. Et les clients potentiels le voient. Cette impression de déjà-vu nuit donc à l'Alpine A610 et fait passer au second plan ses avancées. Pourtant, la voiture a largement progressé. Son CX, c'est-à-dire le coefficient de pénétration dans l'air, est de 0,30. Il est excellent. Et la répartition des masses améliorée, 47% à l'avant, 53% à l'arrière. La rigidité, quant à elle, de l'ensemble, a été renforcée et sa tenue de route est exemplaire. Tout comme son confort et la finition intérieure qui progresse sensiblement. Alors oui, la finition a bien augmenté, mais par rapport à sa devancière. Si on regarde quand même la concurrence germanique à l'époque et ce qu'elle présente, eh bien on reste quand même sur un aspect grande série pour l'Alpine A610. Quand on sait le prix que valait cette voiture et qu'on se retrouve avec des aérateurs de Renault 5, c'est vrai que ça peut laisser à désirer. Mais ce qui est intéressant dans une Alpine, c'est son châssis, son moteur. Et là, la voiture est performante et moderne. Sous le capot arrière, un gros travail a aussi été effectué. Si elle conserve le V6 PRV, celui-ci fait l'objet de tous les soins pour proposer enfin des performances dignes de ce nom. La cylindrée passe ainsi à 3 litres, un 2975 cm3, et gagne en couple avec 350 Nm. Pour la puissance et malgré la catalysation, on monte à 250 chevaux grâce au turbo Garrett T3 qui souffle à 0,8 bar, permettant d'atteindre à l'époque les 265 km/h en vitesse de pointe. Ce moteur servira d'ailleurs de base à la concurrence française, la Venturi 400 Trophy GT puis la 300 Atlantique également en seront équipés. L'Alpine A610 est donc loin d'être ridicule, mais peinera à le faire savoir. Seul bémol, l'Alpine A610 a pris de l'embonpoint. En effet, sur la balance, la belle diepoise affiche 1 tonne 420 quand on sait que sa devancière ne pesait que 1 tonne 210, qui, bien sûr, sans la pénaliser, lui offre un caractère plus grand tourisme que véritablement sportif. Cependant, le gros travail sur l'avant du véhicule a payé. La tenue de route est irréprochable et son tarif de 395 000 francs à l'époque reste raisonnable par rapport à la concurrence. Raisonnable, certes, mais quand même élevé, car l'Alpine A610 manque cruellement d'image tant l'aura d'Alpine a disparu. Et ce manque d'image et cette aura de la marque Alpine, eh bien, effectivement, la voiture va le payer cash dès sa sortie. L'Alpine A610 est présentée officiellement au Salon de Genève en 1991. Si les spécialistes notent les évolutions notables par rapport à sa devancière, la GTA, et louent les progrès de la voiture, le grand public n'y voit qu'une évolution timide et son arrivée laisse indifférent de nombreux visiteurs. Ce manque d'enthousiasme se retrouve aussi dans les ventes. 486 exemplaires trouvent preneur pour la première année. C'est moins que la GTA l'année précédente. Une année pourtant jugée catastrophique. Il n'était pourtant pas si loin le temps où les 1000 GT sortaient de l'usine de l'avenue de Bréauté à Dieppe. L'année 1992 sera pourtant pire, avec seulement 250 unités de livrées, dont 31 exemplaires de la série spéciale Manicourt. On y reviendra juste après. Décidément, la chance n'est pas au rendez-vous. Surtout qu'une crise mondiale frappe le marché des sportives. Enfin, Renault, malgré les résultats en Formule 1 avec Williams, refuse toute promotion sportive au dernier modèle d'Alpine et le budget marketing est si ridicule qu'aucune campagne publicitaire ne viendra soutenir l'Alpine A610. Allez, tout de suite, une petite page musicale avec un hommage au pape du reggae qui nous a quittés en ce début de semaine, le grand Jimmy Cliff, avec son titre que tout le monde connaît, ou presque, Reggae Night. Et nous nous retrouverons tout de suite après pour la suite de l'histoire de la dernière Alpine du XXe siècle avec l'Alpine A610.
Turn on the light, make it shine bright. And listen to this. Jam it.
Reggae night. We come together when the feeling's right. Reggae night. And we'll be jamming.
Yeah.
qu'il était bon ce titre du regretté Jimmy Cliff, Reggae Night. Allez, sans plus attendre, donc on retourne à la suite de l'histoire de cette GT française qui fut la dernière Alpine Renault du XXe siècle, l'Alpine A610. Chez Alpine, on sait depuis longtemps que la situation ne peut pas durer. Dès 1989, le projet W71 a été lancé pour offrir à l'Alpine A610, une petite sœur plus abordable et reprenant l'ADN de la marque diepoise. Malheureusement, la petite Alpine paye l'échec de la grande et le projet est annulé, ou plutôt remplacé en 1993 par le projet W94 qui deviendra le Renault Sport Speeder. L'avenir semble donc compromis pour Alpine. On tente pourtant d'améliorer les choses par petites touches sur l'Alpine A610. Tandis que le Berex travaille à une version turbo évolution de 280 chevaux ou à un cabriolet, sans convaincre la direction pour autant de Renault, qui a déjà fait son choix. Et ce choix, on le connaît, puisque donc la marque diepoise Alpine doit disparaître et laisser sa place à Renault Sport, dont le potentiel, à l'époque, semble-t-il, est supérieur. Comme pour confirmer donc le choix de la marque aux losanges, la clientèle déserte les showrooms et seuls 36 exemplaires sont produits en 1993. Cela n'empêche pas Patrick Leguet de tenter l'impossible en engageant une Alpine A610 aux 24 heures du Mans. En effet, à la fin de l'année 1993, Patrick Leguet décide d'engager une Alpine A610 dans l'épreuve reine de l'endurance, les 24 heures du Mans. À la tête de Leguet Technologies, il connaît bien les Alpines et les Renault qu'il prépare pour la compétition, notamment la GTA Europa Cup ou encore la Renault 21 Europa Cup, avec le soutien timide de Dieppe qui lui fournit une voiture allégée de 35 kg. Retravaillée dans les ateliers de la petite entreprise au Mans, elle gagne en aérodynamique, avant modifié, aileron arrière et en légèreté. Côté moteur, le V6 est modifié et reçoit deux turbos pour atteindre 430 chevaux tout de même. Le tout agrémenté d'une boîte à crabeaux Zadev. Et contre toute attente, l'Alpine A610 Le Mans fera mieux que de la figuration. 5e de sa catégorie et 13e au général. Leguet tentera l'aventure l'année suivante avec plus d'ambition encore. Mais manquant de fiabilité et privé du soutien de l'usine, la voiture n'arrivera pas à se qualifier. Alors, malgré le potentiel sportif démontré aux 24 heures du Mans, l'Alpine A610 ne décolle toujours pas commercialement parlant. L'avenir incertain n'incite pas le client à tenter l'aventure. D'autant plus que Porsche a sorti en 1993 un nouveau modèle de sa 911 type 993. La type 993 d'ailleurs qui sera la dernière Porsche à refroidissement par air. Et personnellement, moi, c'est ma préférée. Particulièrement donc séduisant, ce modèle, la présentation également d'une concurrente chez Venturi avec la 300 Atlantique, juste superbe, n'incite pas plus Renault à changer la donne. Avec 30 voitures produites en 1994, la messe est dite. L'Alpine A610 sera bien la dernière Alpine. Pourtant, le groupe Renault va mieux, récupérant les fruits d'un long travail sur les produits et la qualité et ne manquait pas de moyens pour continuer l'aventure d'une façon différente. Hélas, la décision est sans appel. Capitaliser sur la marque Renault et seulement Renault. En 1995 donc, le cœur n'y était plus, que ce soit à l'usine ou parmi les clients. Et seules 14 voitures sont produites à Dieppe pour clôturer l'histoire de la marque diepoise. L'Alpine A610 a eu également son lot de séries limitées. Tout d'abord en 1992 avec l'A610 Olympique. Elle n'était pas proprement parlée une série spéciale cette voiture. Si elle fait partie d'une opération marketing globale du groupe Renault à l'occasion des Jeux Olympiques d'Albertville en février 1992, elle n'était pas destinée à la vente comme le reste de la gamme Renault, c'est-à-dire Clio, Renault 19, Renault 21, Espace, Renault 25, Espace 2 et Cherokee. Deux exemplaires furent produits, mais dans une logique d'image et destinés au transport de chanceux VIP durant la compétition. Ils furent par la suite revendus comme de vulgaires occasions, faisant d'eux des raretés absolues bichonnées aujourd'hui par des collectionneurs. heureux. Et puis bien sûr, si on parle de série spéciale avec l'Alpine A610, on ne peut pas passer à côté de la série spéciale Manicourt. C'est en juin 1992 qu'Alpine tente tout de même de promouvoir son modèle, donc en présentant une série spéciale dénommée Manicourt. Il s'agit alors de célébrer la victoire de Nigel Mansell sur Renault Williams au Grand Prix de France sur le circuit nivernais. Le prétexte est un peu tiré par les cheveux, enfin pour ceux qui en ont. Mais c'est l'occasion de refaire parler un peu de l'Alpine A610. Pas d'évolution technique pour ce modèle, mais une teinte spécifique. Des jantes peintes, un intérieur exclusif et une plaque numérotée de 0 à 30. Pour les 31 exemplaires proposés, le tarif, lui, passe à 449 500 francs contre 416 500 francs pour la version normale en 1992. Ça piquait quand même au niveau du porte-monnaie. Alors oui, l'Alpine A610 fut la dernière Alpine du XXe siècle. À voir le succès de l'Alpine A110, lancée donc elle en 2017, on ne peut que regretter le temps perdu. Il aura fallu près de 22 ans pour revenir aux origines de la marque et proposer un produit répondant à la demande. Le projet W71 n'était sans doute pas parfait, mais allait dans ce sens et aurait pu changer la donne si la direction s'en était donné les moyens. Hélas, il faut savoir prendre des décisions, et la logique d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Louis Schweitzer, le patron de l'époque, avait à cœur la rentabilité du groupe, et l'échec de la fusion avec Volvo en 1992 avait rabattu les cartes. À nouveau, seul dans la bataille, la marque aux losanges devait se concentrer sur sa marque en attendant une internalisation qui viendra un peu plus tard avec le rachat de Dacia en 1999 pour construire une marque low cost et une prise de participation la même année chez Nissan pour former l'alliance. Il n'y avait alors plus de place pour la marque Alpine. Avec 818 exemplaires seulement, l'Alpine A610 paiera le prix fort et traîne encore aujourd'hui l'image d'un accident industriel plutôt injuste au vu des qualités de la voiture qu'elle est. Voilà, cette émission se termine avec, comme je le dis toujours, le temps qui nous était imparti est parti avec cette émission sur l'histoire de cette superbe GT française que fut l'Alpine A610, la dernière Alpine du XXe siècle. Ça roule, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis quant à moi à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça roule. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et une très bonne route.